DW, le club de l'auditeur.
C'est la rentrée scolaire et Pierrette à Douala doit acheter les fournitures scolaires pour ses enfants. Alors, elle travaille d'arrache-pied dans sa boutique pour s'en sortir, comme de nombreuses femmes d'ailleurs, que ce soit au Cameroun ou ailleurs. C'est le sujet de ce club, votre rendez-vous sur la DW tous les samedis à 17h et tous les dimanches à 7h temps universel. Mireille Drono Micro, bienvenue à toutes et à tous.
Maman, tu fais quoi à ma caisse?
Vraiment, mais seulement que les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Non, il faut qu'on soit responsable vis-à-vis de nos actes.
Je vendrai, non.
Vous n'êtes pas un abîmaki.
Non, non, oui.
Oye, c'est bien, non, un meeting président. Tu as bon que tu vas mourir. Après l'élection, à mémalématique, ma grande.
Mambar Pierrette, c'est son nom dans la vraie vie et le titre du film dont elle est l'héroïne. Mambar Pierrette est en effet couturière et à l'approche de la rentrée scolaire, elle galère parce qu'il faut gagner l'argent, l'oxygène, comme elle dit, pour subvenir aux besoins de ses enfants dont elle supporte seule la charge comme tant d'autres femmes. Et il n'y a pas que la rentrée scolaire, il y a tous les autres déboires auxquels elle doit faire face. Les problèmes d'inondation, par exemple, l'insécurité, la violence, l'absence d'eau courante à la maison, les coupures d'électricité, etc. Ce sont les échanges au téléphone de Pierrette avec sa cousine, Rosine Bakam, originaire de Yaoundé, mais qui vit en Belgique, qui ont inspiré Rosine, au départ journaliste reporter d'images, puis réalisatrice de documentaires, à filmer cette réalité des femmes dans leur combat au quotidien. Un film bouleversant entre documentaire et fiction qui nous confronte à la situation économique et à la place des femmes au Cameroun, représentative des conditions de vie de nombreuses femmes dans le monde d'ailleurs. Présenté cette année au Festival du film de Cannes à la quinzaine des cinéastes, ce film tourné dans les quartiers populaires de Douala montre une femme courageuse, déterminée, qui résiste à toutes les difficultés de la vie. Sans relâche, Pierrette s'affaire. Résignée, elle vide l'eau rentrée dans sa maison avec l'aide de ses enfants. Arrivée dans son atelier de couture, le même calvaire recommence. Mais avec la rentrée scolaire qui approche, elle doit redoubler d'efforts pour coudre des robes à ses clientes que l'on voit défiler dans sa boutique pour qu'elles soient belles aussi. Et elle n'hésite pas à les consoler quand elles sont dans la souffrance.
Je suis contente. Ah, je me défends.
C'est le grand moment, ma copine.
Maman, c'est le vrai tout.
Le vrai moment, le moment de l'argent.
L'oxygène.
Tu as bien cousu mon cabaye. Ma femme, tu dois une bière.
J'ai rencontré à Cannes la réalisatrice Rosine Bakam et sa cousine Mambar Pierrette, qui tient donc le rôle principal du film. Rosine nous explique d'abord sa motivation à réaliser ce documentaire.
Qu'est-ce qui m'a motivée? Bon, c'est ma famille. Ma famille, cette fiction m'a ramenée à mon premier désir de cinéma qui était de filmer ma famille et Pierrette. L'histoire de Pierrette, tout ce qu'on échangeait dans nos messages, dans nos coups de fil, et ça m'inspirait et ça m'a donné envie d'écrire pas seulement sur Pierrette, mais sur l'histoire d'une génération de femmes.
Alors Pierrette, vous-même, vous avez tout de suite accepté cette idée de tourner, parce que vous n'êtes pas actrice professionnellement parlant, vous êtes vous vraiment couturière de formation. Oui. Est-ce que vous avez tout de suite accepté cette idée de Rosine de tourner un film?
Oui, j'ai accepté la proposition de Rosine. Je ne suis pas actrice, je suis couturière de profession. Oui. Et
ça ne vous a pas fait peur? Vous étiez contente ou peut-être même flatté un petit peu de jouer votre propre rôle, finalement, de montrer la situation des femmes comme ça?
Non, j'étais flattée. J'étais un peu frustrée au début, les premiers jours, mais après, c'était parti, oui.
Alors, c'est un portrait de femme, c'est une femme, mais finalement, qui en représente tellement au quotidien. On parle surtout de la rentrée scolaire. Est-ce que cette rentrée scolaire, c'est pour beaucoup de femmes au Cameroun un sacrifice, en fait, de pouvoir envoyer les enfants à l'école?
La rentrée scolaire au Cameroun, c'est le grand enjeu. C'est le moment où on verra quelle famille pourra envoyer son enfant à l'école, quelle famille pourra scolariser ses enfants. Et c'est un grand enjeu pour chaque maman, pour chaque parent, de se dire « Ok, je vais pouvoir inscrire mes enfants dans une école et avoir tout pour leur donner pour une rentrée scolaire. » C'est un grand enjeu. Je pense même ici à une plus... Voilà, oui, à une échelle beaucoup plus différente, mais là-bas, dans les conditions de vie, c'est un grand enjeu.
Oui, parce que tous ces cahiers, toutes ces fournitures scolaires sont extrêmement chères, en plus des frais éventuellement de décollage.
C'est cher, les fournitures.
Oui, les fournitures sont vraiment chères. Ça grimpe de jour au lendemain. Oui.
Et est-ce qu'il y a quand même des aides, justement, pour les enfants qui vont à l'école? Une sorte d'assistance où on donne un petit pécule, peut-être, pour pouvoir acheter les cahiers, par exemple?
Il n'y a pas d'aide. Il n'y a pas d'aide du tout. Donc, les familles se débrouillent comme elles peuvent pour pouvoir aller au bout et pour pouvoir donner à leurs enfants le minimum. Les familles sont indépendantes, elles doivent le faire par eux-mêmes.
En filigrane, vous évoquez aussi la guerre anglophone-francophone, parce que vous dites dans le film que les aides, elles sont accordées aux déplacés. Dans quelle mesure ce conflit impacte justement la vie même quotidienne de la population?
C'est juste que la guerre anglophone-francophone, ça vient trouver déjà une précarité existante qui ça vient trouver des gens qui sont déjà nécessiteux de vouloir quelque chose. Et cette personne est représentée par Pierrette qui habituellement vient avoir quelques fournitures scolaires dans cette église, mais qui ne l'a plus parce qu'il y a une guerre. Donc c'est une précarité qui remplace une autre. Et voilà, c'est vraiment pas un conflit, mais c'est vraiment la cohabitation des précarités et comment les gens peuvent avoir, par exemple, du respect pour ça. Pierrette, elle a du respect pour ça. Elle a du respect pour ces gens qui arrivent parce qu'elle n'est ni frustrée, elle n'est ni en colère. Elle se dit juste, je vais continuer à chercher.
Vous évoquez évidemment aussi les inondations, ce qui n'est pas un problème purement camerounais, hélas, ça arrive un petit peu partout, en Afrique et même ici en Europe. Malgré tout, on voit un petit peu les dégâts que ça a sur les gens, question de salubrité, de santé aussi, mais sur tout ce que ça détruit. Comment est-ce qu'on pourrait éviter ce genre d'inondation? Vous, j'imagine que, je ne sais pas si votre boutique a été réellement déjà inondée lors de ces grosses pluies, mais comment vous pensez qu'on pourrait éviter ça?
Ma boutique, ce n'est pas une première fois. À chaque saison de pluie, elle s'inonde. Oui. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est que la communauté peut curer les grains. Si la communauté cure les grains, je crois qu'il y aura l'espace où l'eau peut bien circuler. Oui, il y aura moins d'inondations.
Vous pensez qu'on pourrait justement prévenir? Il n'y a pas suffisamment de prévention? Il y a un laisser-aller peut-être?
Donc, il y a...
Les constructions peut-être qui se trouvent là où il ne faut pas?
Les constructions se font de manière anarchique, comme ça, et ça a des conséquences. Et la conséquence, c'est que des gens construisent sur des lieux de canalisation qui permettent à l'eau de circuler. Et là, quand on vient construire une habitation sur ces canalisations, l'eau s'en va vers des maisons où l'eau s'en va où ça peut aller. Donc, du coup, ça va inonder des maisons et des habitations. Donc, c'est pas toujours suivi et réglementé des manières de construire. Je pense que si c'était beaucoup plus organisé, il y aurait moins de catastrophes de ce genre.
Ça implique aussi des conséquences graves en ce qui concerne les installations électriques, parce que vous montrez tout au long du film aussi les rues, enfin des installations électriques plus que hasardeuses. Et au moment des inondations aussi, vous dites attention, il faut d'abord couper le courant, parce que c'est vrai qu'on s'électrocute à Kinshasa récemment lors des inondations. Il y a un tas de gens qui ont été électrocutés parce qu'ils étaient les pieds dans l'eau.
Oui, lors de l'inondation, nous on a déjà l'impression, même des enfants, on arrête directement le compteur, on baisse le disjoncteur là. la lumière, l'électricité est coupée à la maison. Oui. Donc à toute fois qu'il y a inondation, les enfants, même si je ne suis pas là, les enfants vont directement arrêter le disjoncteur. Oui.
Et l'électricité, c'est par ailleurs un autre problème aussi, c'est que vous avez des bailleurs qui sont assez peu humains et qui coupent tout simplement l'électricité sans prévenir. Un jour, vous revenez pour faire marcher vos machines et pouf, plus d'électricité sans rien vous dire. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas payé. Il n'y a vraiment pas du tout d'humanité de ces bailleurs pour dire, écoute, si tu ne payes pas d'ici demain ou après-demain, je serai obligée, non ?
Non, le bailleur, c'est que quand la quittance vient, tu peux traîner de ne pas payer peut-être la boutique. Mais la lumière, tu dois payer, tu dois respecter le délai. Et quand ça vient, tu ne payes pas, il doit couper. Parce que lui-même, s'il ne paye pas, il aura des pénalités. Et bon, maintenant au Cameroun, on a changé de système. Tu vois, maintenant, il y a ce qu'on appelle le prépayé. Donc, tu ne peux plus donner la lumière au voisin. Toi-même, tu pars directement t'abonner. On paye par carte. C'est ce qui se passe maintenant.
C'est pour éviter, j'imagine, que les gens se connectent gratuitement sur les uns sur les autres, le système D.
C'est ça. Et ça se régule, ça s'organise. Et pour moi, ce n'est pas de la meilleure des façons de faire du prépayé parce que ça laisse encore des gens sous le carreau qui n'ont pas les moyens de payer ça. Et comme Pierrette, ce que je montre, c'est une organisation. Dans un pays, c'est que dans un quartier populaire, les gens s'organisent comme ils peuvent. Il y a des gens qui distribuent de la lumière, qui est de la lumière de l'État, parce que l'État ne le fait pas bien, parce que ce n'est pas bien organisé. Et quand l'État ne le fait pas bien, les gens s'organisent par eux-mêmes et font leur loi, comme ce distributeur de lumière qui fait sa loi à ce moment-là.
Par ailleurs, il n'y a pas non plus trop d'addiction d'eau, parce qu'on voit dans votre film que les enfants doivent aller chercher, les filles évidemment, doivent aller puiser l'eau, chercher de l'eau. Il n'y a pas de l'eau au robinet partout.
Ce n'est pas tout le monde qui a les moyens pour tirer de l'eau. Moi, principalement, je n'ai pas l'eau chez moi. Je me connecte chez une voisine et chaque matin, les enfants prennent des récipients pour aller puiser et venir garder à la maison. Là, quand sa quittance vient, on se partage, je paye aussi. Parce que je n'ai pas les moyens pour me connecter directement à la société.
Vous dites aussi, bon, après je ne peux pas raconter tout le film non plus, mais du coup vous êtes une véritable héroïne, malgré vents et marées, inondations, tout ce qui peut se passer, vous restez d'un calme, d'un optimisme, enfin non, par moments complètement découragé, mais vous dites il faut avancer, on n'a pas le choix, et vous survivez grâce à votre couture. Il y a d'autres femmes qui se prostituent par exemple aussi, elles n'ont pas d'autres moyens pour pouvoir joindre les deux bouts.
Oui, il y a d'autres femmes qui n'arrivent pas à se battre. Du coup, quand peut-être elles sont délaissées, peut-être par le père, tu vois, les enfants ne sont pas scolarisés parce qu'elles ne font pratiquement rien, elles sont à la maison. Oui.
Justement, parlons de père et des hommes. Les grands absents dans le film, c'est les hommes. On ne les voit pas. On dirait que la société fonctionne grâce aux femmes et que ces messieurs, ils ne sont pas là. Alors, dans le film, évidemment, Pierrette a des problèmes et il y a une juge enfin, qui lui dit, je ne sais plus si c'est une juge ou quelqu'un des autorités qui lui disent, mais si vous n'êtes pas marié, vous ne pouvez pas l'obliger, enfin votre homme, le père des enfants, on va dire, ne peut pas être obligé à verser quelque chose. Est-ce qu'en effet, donc, la loi fait qu'elle défavorise en fait les femmes, il faut être marié, et encore, je ne sais pas si c'est une garantie à ce moment-là, pour que les hommes prennent leurs responsabilités ?
On est dans un système patriarcal où, les hommes sont mieux protégés que les femmes. Pierrette, elle vient se plaindre, mais c'est elle qui se prend toutes les reproches. Et je voulais montrer par cette séquence comment, dans cette société camerounaise, comment une femme seule peut se retrouver encore plus seule dans ses difficultés. Et en même temps, montrer par là que cette indépendance qu'elle arrive à gagner, c'est une force. C'est une force qui va au-delà du mariage qui est préconisé, qui est vendu comme étant la solution idéale, alors que la solution, c'est le travail qui prend une place importante dans le film. C'est le travail, c'est la couture de Pierrette qui lui permet d'inscrire ses enfants à l'école. C'est le travail qui lui permet d'être la femme indépendante qu'elle a. C'est le travail qui lui permet de pouvoir subvenir à ses besoins, aux besoins de sa maman, aux besoins de ses enfants. C'est le travail et ce n'est pas le mariage, ce n'est pas son statut marital, ce n'est pas l'homme qui sont partenaires, c'est elle d'abord. Je voulais montrer à quel point le travail donne une libère, oui, et surtout le travail construit la personne qu'on est.
Il donne une certaine sécurité. Vous vouliez aussi dire quelque chose, Pierrette, par rapport aux hommes. Les amis qu'on montre autour de vous aussi d'ailleurs, on ne voit pas leurs hommes, elles sont seules, on voit que vous faites une très très belle robe à une jeune femme qui est toute contente parce qu'elle va recevoir son copain et finalement elle ne vient pas, et je trouve ça très beau parce que vous lui dites tu vas mettre ta robe et on va sortir. Je trouve ça fantastique parce que vous montrez à ce moment-là que finalement on se fait belle pour soi d'abord, on doit se faire plaisir et pas pour un homme. Ça, je trouve ça bien.
Oui, j'ai conseillé ma soeur Karel de ne pas trop se vocaliser sur un homme. Oui, il faut qu'elle se prenne en charge d'abord elle-même. Oui.
Vous dites à un moment que finalement, un homme, c'est un bonus. Considère ça comme un bonus. S'il est là, tant mieux, mais autrement, on continue.
Oui, un homme dans ma vie n'est qu'un bonus parce que je n'attends rien d'un homme. Oui.
Alors, en attendant, vous parliez du patriarcat. Les veuves, elles sont soumises aussi quand même à des rituels un petit peu, abaissants, quoi.
Oui, je montre aussi la confrontation des deux générations. La génération de nos mamans qui avait une manière de vivre qui était plus traditionnelle que la génération de Pierrette et de moi où on fait d'autres choix et la confrontation de ces choix-là, qu'est-ce que ça peut donner? Je voulais montrer également ça et la place de la femme dans le contexte de cette génération-là et la place de la femme dans le contexte de notre génération. Et voilà, je voulais juste sans juger parce que c'est un héritage qu'on a reçu et ce que je voulais montrer, c'est la liberté que nos mamans nous donnent d'être ce qu'on veut parce que quand ma tante lui dit, de toute manière, vous n'allez pas refaire tout ce que nous on a fait. Et ton choix, je vais respecter ton choix. C'est une liberté énorme. Et c'est comme ça qu'on a toujours vécu avec nos mamans. Elles ne nous culpabilisaient pas, même si on faisait des erreurs, même si on ne faisait pas toujours les choix qu'elles ont eu à faire. Elles étaient là, elles nous disaient, on n'est pas d'accord, mais on vous laisse faire. On n'est pas d'accord, on respecte.
Les femmes sont quand même soumises à la violence des hommes. Y a quand même des viols. Bon, dans le film, on ne voit pas de viol. Vous vous faites quand même agresser. Il n'y a pas de viol dans le film, mais vous vous faites quand même agresser. On vous vole par le taxi-moto. Et cette violence, elle est quand même quotidienne contre les femmes.
Oui, elle est quotidienne, même pas chez les femmes, même chez les hommes, parce qu'il y a des gars, quand tu empruntes une moto, parfois quand c'est aux heures tardives, d'autres changent ta destination, ils ne sont pas seuls, ils sont parfois deux motos, mais tu ne sais pas qui sont deux motos. Quand tu empruntes l'autre, quand tu suis, l'autre est derrière. Quand tu avances, l'autre est derrière, il te suit. Oui.
Et vous évoquez à un moment la justice aussi. Est-ce que ces hommes qui sont coupables justement de l'insécurité sont aussi sanctionnés par la loi?
Oui, ils sont vraiment sanctionnés par la loi quand on réussit à leur maintenir, quand on réussit à les arrêter. Parce que là, comme mon cas, on ne les a pas arrêtés, ils ne seront pas sanctionnés parce qu'on ne les connaisse pas. Oui.
Il y a quand même dans tout votre film, on voit une très grande solidarité entre les femmes. Vous évoquez évidemment le système des tontines qui fait que on se montre solidaire, on se prête, on s'entraide avec ce système de caisse commune, on va dire. Elle existe vraiment cette solidarité?
Oui, cette caisse existe, des tontines, parce que moi particulièrement, je fonctionne avec des tontines. Il y a des tontines que je juge, c'est d'ailleurs que je prends en août pour scolariser les enfants en septembre. Donc je fonctionne avec que des tontines. Oui.
Alors pour terminer, puisque je suis obligée de terminer, quels sont vos espoirs pour votre pays? Il y a un moment vous évoquez les femmes qui peuvent être payées, comme d'autres d'ailleurs, pour aller manifester pour le président dans la rue. C'est une option de se montrer solidaire, peut-être pour avoir un peu plus d'argent. Mais qu'est-ce que vous attendez de votre pays? Quels sont vos espoirs pour votre pays, pour la situation, l'amélioration notamment des femmes?
Oh, l'espoir, c'est que c'est que les gens arrivent à croire en la force qui réside en chacun de nous. On a des talents, on a des dons qu'on n'imagine même pas. Il faut juste, parfois, juste faire confiance à ce qu'on a, à ce qu'on possède et de se faire confiance. J'espère que cette génération-là, par le film de Pierrette ou pas, retrouvera cette confiance de se dire « Waouh, on a des choses, on a une histoire, on a une culture, on a des valeurs qui comptent, qui sont importantes et qui peuvent porter très, très haut. Et on a des talents enfouis en nous qu'on peut découvrir et en essayant juste. »
Et vous, Pierrette, c'est quoi votre espoir pour votre pays?
Mon espoir pour le pays, c'est qu'il faut que beaucoup de choses changent. Oui, parce que la vie coûte un peu cher. La scolarisation des enfants aussi, ça nous dérange. J'aimerais vraiment que le pays doit un peu changer.
Vous allez montrer le film au Cameroun?
Oui. Ah oui, bien sûr. C'est le prochain objectif, c'est de montrer le film partout où on a tourné, et pas seulement où on a tourné, mais dans des écoles, comme on a toujours fait avec mes autres films, avec Caravane Cinéma, qu'on a créé au Cameroun. C'est de montrer cette réalité-là aux gens qui la vivent.
Pour leur donner courage et faire prendre conscience peut-être aussi.
Pour leur permettre de se confronter à leur propre réalité d'abord et de voir leur réalité directement, pas filmée par l'Occident, pas filmée par quelqu'un d'autre, mais directement par quelqu'un qui y vit et qui la connaît et qui souhaite juste qu'elle se questionne et qu'elle pense.
Super, merci beaucoup.
Merci.
Merci Pierrette.
Merci.
Et bon courage pour l'héroïne que vous êtes. Ce n'est pas de cinéma, mais femme au quotidien.
Merci beaucoup madame. Merci.
Merci.
Malgré l'amère réalité quotidienne qu'il brosse, ce film touchant donne aussi la pêche et met en exergue la résilience des habitants, comme cet artiste qui donne de la joie aux enfants par son spectacle plein d'humour.
Oh, ces enfants, les enfants, vous m'avez difficulté. Vous voulez avoir un dernier spectacle pour vous, les amis?
Oui.
Bon, un groupe ici et un groupe ici. Bien comme ça. Bien comme ça.
Ce film de Rosine Bacam, sorte d'hommage à sa famille tout particulièrement, mais finalement aussi à toutes les femmes, a été une véritable surprise de cette édition du Festival de Cannes. Et il a vraiment ému le public. En témoignent ses applaudissements nourris à l'issue de la projection. Notez que Mambar Pierrette, le film de Rosine Bacam, est programmé dans de nombreux festivals, à commencer par le Canada, où il est projeté jusqu'à ce 17 septembre 2023, au Festival du film international de Toronto, avant de poursuivre sa programmation en Belgique, en France, en Allemagne, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Voilà, il est temps de se quitter. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver ce magazine, comme toutes nos émissions, en podcast et tous nos articles ou informations diverses sur notre site internet. Notre adresse dw.com/français, sans cédille bien sûr. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous et restez confiants. Give me la amo filatema.